et notre temps, et puis par la suite, on va étudier notre texte pour aujourd'hui. Alors Seigneur, nous te disons merci pour toute cette semaine qui s'est écoulée, semaine à travers laquelle tu nous as instruits, tu nous as bénis par ta présence, et tu nous as permis, Seigneur, de jeter un regard particulier sur la grâce qui vient de toi, et grâce, Seigneur, que nous avons reçue et dont nous avons bénéficié. Nous voulons, Seigneur, honorer ce que tu as fait pour nous, en recevant, Seigneur, adéquatement ta parole, mais aussi cette grâce, Seigneur, somptueuse que tu nous accordes. Ce matin, Seigneur, je te demande d'étendre ta main, de bénir ma sœur, de bénir mon frère, dans ce temps de méditation, dans ce temps de réflexion. Instruis-nous, dirige-nous, et permets à cette parole, Seigneur, de s'enraciner en nous, afin, Seigneur, qu'elle puisse porter un fruit qui t'est agréable et profitable jusque dans l'éternité. Merci Seigneur parce que tu prends encore le temps de nous visiter, de nous instruire, de nous parler. Tu aurais pu passer outre nos personnes en raison, Seigneur, de notre péché, de notre iniquité. Mais ton amour, Seigneur, a été manifeste et est encore manifeste parmi nous. Et nous en sommes, Seigneur, tout simplement les bénéficiaires. Alors on veut vraiment te remercier et te rendre grâce. Et que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors notre passage de cette semaine qui se trouvait dans Tite au chapitre 2, le verset 11 et 12. Aujourd'hui on complète le verset 12, mais on va relire le texte au complet simplement pour ramener les choses dans leur contexte. Car la grâce de Dieu, donc je répète, Tite 2, le verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Je répète les versets de Tite 2, le verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. On ne reviendra pas sur les enseignements de toute cette semaine parce que c'était riche en contenu. Donc, ceux qui voudraient revoir ces enseignements, ils sont bien sûr disponibles sur notre page Facebook. Vous n'avez qu'à faire dérouler la page vers le bas et puis vous trouverez tous les enseignements qu'on a pu porter sur ce passage depuis lundi matin. Ce matin, la section qu'on étudie, la dernière section de ce verset, la grâce nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alors quelques mots importants, bien sûr, ça va être le mot sagesse, le mot justice et le mot piété. Sagesse, c'est le terme sophronos en grec, donc S-O-P-H-R-O-N-O-S. Pour ceux qui prennent des notes, je répète, S-O-P-H-R-O-N-O-S. Sophronos va nous parler d'un esprit saint, d'un esprit sobre, d'un esprit qui est discret, qui est tempéré. On parle essentiellement ici non pas d'une connaissance, non pas d'une intelligence supérieure, mais plutôt d'un trait de caractère qui prône la discrétion et la modération. Lorsqu'on parle de justice, c'est le terme dikaios, donc D-I-K-A-I-O-S. Je répète, D-I-K-A-I-O-S. Et là, on va parler de ce qui est juste, qui est correct, de ce qui se fait comme il se doit, et de ce qui est conforme à la loi. Et enfin, le terme piété, on a vu cette semaine le terme impiété, et là, on voit le terme piété. Donc, le terme piété, c'est eusebos, donc E-U-S-E-B-O-S, je répète, E-U-S-E-B-O-S, qui parle bien entendu de quelque chose qui est pieux, quelque chose qui émane de Dieu, donc qui est divin, est quelque chose qui est opéré et qui fonctionne selon les vertus et les préceptes divins. Alors, allons-y directement dans notre enseignement pour ce matin. La grâce nous enseigne à vivre dans le siècle présent. Avant qu'on ne rentre dans les trois thématiques subséquentes, sagesse, justice et piété, je crois qu'il est important de s'arrêter sur cette première notion, comme quoi la grâce nous enseigne à vivre dans le siècle présent. En fait, pour dire tout simple, Dieu a décidé de toute éternité de nous faire exister, de nous placer à cette époque-ci de l'histoire de l'humanité. Dieu, dans sa préséance sur toute chose, aurait pu décider de prendre Florent et de le manifester, de le créer au XVIIe siècle. Il aurait pu prendre qui que ce soit d'entre nous et puis l'établir, le faire naître au IIIe siècle. Mais Dieu a décidé dans sa sagesse sans faille que c'était pour cette génération-ci, pour cette époque-ci, qu'il voulait nous utiliser et nous créer. Donc la grâce de Dieu a fait en sorte que nous vivions dans une époque pour laquelle nous sommes pleinement, totalement et adéquatement préparés. La grâce de Dieu nous équipe pour une œuvre auprès de cette génération-ci. Il y a plusieurs personnes qui vivent en regrettant le temps passé. On leur demande dans quelle époque tu aurais voulu vivre et plusieurs vont refuser l'époque présente en prétendant plutôt qu'ils auraient eu plus de plaisir, plus de bonheur à vivre dans une époque un peu plus lointaine. Mais Dieu nous a préparé parfaitement pour aujourd'hui. Il ne t'a pas préparé pour le 19e siècle, il ne t'a pas préparé pour le 17e siècle, il ne t'a pas préparé pour les quelques premiers siècles après Jésus-Christ, il t'a préparé pour aujourd'hui et il t'a donné et il te donne ce qui est important pour travailler dans ce siècle-ci. Alors, faut pas regarder notre époque comme étant une erreur ou notre présence dans cette époque comme étant une erreur. Peu importe les talents qui sont tiens, peu importe les dons, les habiletés que Dieu peut t'avoir accordées, il te les a accordées en vue d'un travail auprès de cette génération-ci. Et tu auras des comptes à rendre à Dieu. Est-ce que tu auras pleinement fait ton travail ou tu auras fait le travail à temps partiel ou tu auras peu fait ton travail auquel il t'avait appelé. Donc non seulement Dieu nous prépare et nous a préparé pour cette génération-ci, mais la grâce de Dieu nous équipe aussi afin que nous laissions un héritage. Lorsqu'on regarde la vie de Paul qui a écrit non seulement à Timothée mais à Tite, on appelle ça les épîtres pastorales, donc 1 Timothée, 2 Timothée et l'épître de Tite, c'est des instructions que Paul, qui est un aîné dans la foi, qui est un homme d'expérience dans le ministère, des recommandations, des enseignements qu'il va adresser de façon spécifique à de jeunes pasteurs, à de jeunes ouvriers qui sont appelés à prendre la suite. Dans le livre de Timothée, on voit clairement que Paul arrive à la fin de sa vie et qu'il demande à Timothée de suivre le même parcours qui a été le sien, de courir la même course qui a été la sienne, de combattre le combat qui est juste lui aussi. Donc, il est en train de passer le relais à Timothée. Et Tite est un peu dans ce même cadre de pensée où Paul est en train de donner à Tite les instructions pour la prochaine génération, instructions que lui aussi aura éventuellement à partager à une autre génération. Donc, de surcroît au fait que Dieu nous ait préparé pour cette génération-ci, pour cette époque-ci, et qu'il n'y a aucune erreur dans le fait que tu sois encore vivant en 2020, mais de surcroît à cela, le Seigneur te demande aussi, et le Seigneur nous demande collectivement aussi, à préparer la prochaine génération pour la suite de l'œuvre de Dieu. Et il en sera de même pour chacune des générations qui se succédera jusqu'à ce que nous parvenions effectivement à cette génération qui entendra le son de la trompette et que Christ viendra chercher lorsqu'il viendra chercher son Église. Mais d'ici là, non seulement nous travaillons pour cette époque, pour l'époque contemporaine qui est la nôtre, mais de surcroît à cela, nous préparons aussi les prochaines générations. Et la grâce de Dieu nous donne la sagesse de saisir notre temps, nous donne la sagesse de comprendre notre génération et d'œuvrer de façon pertinente et de façon appropriée par rapport à notre génération. Et la grâce de Dieu nous donne aussi les instructions quant à comment préparer la prochaine génération pour des mandats qui seront peut-être un peu différents des nôtres, même si c'est tout simplement la suivante, la génération suivante. Mais de génération en génération, la société change, les défis changent. Et puisse Dieu t'utiliser et m'utiliser pour préparer effectivement cette prochaine génération à relever ses propres défis, à combattre ses propres combats et à remporter les propres victoires auxquelles Dieu les a destinés. Alors, la grâce nous enseigne à vivre dans le siècle présent. La grâce nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. La grâce de Dieu nous guide pour que nous vivions selon la sagesse de Dieu. Et on s'entend que la sagesse de Dieu versus la sagesse des hommes peut très souvent être diamétralement opposée. Il y a des choses qui semblent logiques à l'homme et qui semblent contradictoires avec la pensée de Dieu. Il y a des plans que l'homme déroule, des plans que l'homme met de l'avant et qui sont en opposition avec les plans de Dieu. Alors il est important pour nous de chercher la face de Dieu et de savoir que Dieu nous accorde une grâce particulière de nous enseigner, de nous former, de nous éduquer afin de vivre en parallèle et en accord avec la sagesse de Dieu. C'est une grâce que Dieu puisse nous dire, voici mon fils, voici ma fille, comment je désire que tu vives. Il ne nous laisse pas à tâtons découvrir ce qui est bien de ce qui est mal. Sa parole, la Bible, notre mode d'emploi de notre vie de tous les jours nous enseigne comment avoir ou mener une vie qui est agréable à Dieu et qui s'opère selon la sagesse même de Dieu. La grâce de Dieu nous guide pour que nous puissions influencer cette génération. Il y a tellement d'exemples bibliques qu'on pourrait relever d'hommes, de femmes qui ont été guidés par le Seigneur pour influencer positivement leur société. Que ce soit des hommes et que ce soit des femmes, on a dans la période des juges des personnes comme Déborah, une femme qui a influencé le peuple d'Israël à cette époque-là et a permis à des hommes de valeur d'être élevés ou de s'élever et d'accomplir des prodiges pour le Seigneur. Dans la Bible, on a des hommes comme Joseph, qui a été vendu comme esclave, qui a été rejeté par ses frères et qui est arrivé après un concours de circonstances relativement difficiles ou même très difficiles. Il est allé en prison, on l'a accusé d'agression alors qu'il n'avait rien fait. Il a été vendu, puis oublié en prison pour se ramasser un jour dans la cour du roi d'Égypte, du pharaon, et il est devenu comme le premier ministre de l'État d'Égypte, et il a été celui qui a préparé l'Égypte par rapport à une famine importante qui allait frapper la région, et ce faisant, Dieu l'a aussi utilisé pour bénir sa propre famille, ses propres frères qui l'avaient vendu et qui l'avaient poussé vers l'esclavage. Il va être une source, un moyen, un outil que Dieu va utiliser, non seulement pour bénir la région, mais de façon particulière pour bénir son peuple, pour bénir sa famille à cette époque-là. On a quelqu'un d'autre comme Daniel avec ses trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible nous dit qu'ils avaient une science et une intelligence supérieures à tous les autres jeunes hommes de leur époque. Et Daniel, en parallèle à Joseph, ou à l'instar de Joseph plutôt, va être lui aussi le premier ministre ou un des hommes les plus importants après le roi Assuérus et après le roi Nebuchadnezzar dans l'époque du royaume de Babylone. Et il va permettre à Israël de préparer graduellement son retour d'exil. Donc on voit que Dieu utilise des hommes avec une sagesse particulière pour influencer positivement leur génération. Et on prie que Dieu puisse encore élever aujourd'hui de tels hommes, que ce soit des leaders politiques, des leaders sociaux, mais des hommes qui craignent Dieu et qui, de par leur crainte de Dieu, acquièrent aussi une sagesse qui émane directement du trône de grâce et qui leur permet de poser les actions importantes dans des temps déterminés en ayant une influence positive sur leurs concitoyens et leur société. Mais ça pourrait être aussi des leaders sociaux, ça pourrait être des leaders économiques, ça pourrait être des leaders au niveau du monde des entreprises, ça pourrait être des leaders au niveau du monde des arts ou du monde des sports, des hommes et des femmes d'influence remplis de sagesse qui émane directement de Dieu et qui amène cette génération-ci à être influencée par la main de Dieu via leur concours. Donc on prie effectivement que Dieu nous donne de tels hommes. Et dans ce que nous sommes nous-mêmes, même dans la portée minimale que nous pouvons avoir en tant qu'individu, que Dieu nous permette d'avoir cette sagesse. Chacun d'entre nous, et je vous le répète souvent, on a tous un cercle d'influence. On a tous des gens autour de nous, que ce soit parce qu'on est papa et maman et on a des enfants, que ce soit parce que on est grands-parents et on a des enfants et des petits-enfants, que ce soit parce qu'on est tonton ou tati ou parce que on est patron ou parce qu'on est chef d'équipe ou parce qu'on a un cercle d'amis. Mais on a tous un cercle d'influence, des hommes et des femmes qui regardent vers nous, des jeunes gens qui regardent vers nous pour obtenir des opinions, des idées, des conseils. Alors, dans la portée même de ta vie et de ma vie, que Dieu puisse effectivement nous accorder la sagesse pour vivre selon ses principes et pour être aussi une source d'inspiration pour les autres, pour notre génération, avec la sagesse divine. Troisième point ce matin, la grâce nous enseigne à vivre selon la justice. La grâce nous enseigne à vivre selon la justice. La grâce nous enseigne à vivre selon la justice de Christ, en dépit des malversations de notre société contemporaine. Soyons honnêtes, le monde va de mal en pis. Le monde ne va pas de mieux en mieux. Le monde n'est pas en train de se rapprocher de Christ. Le monde n'est pas en train de s'améliorer spirituellement. La Bible nous dit même que si le jugement de Dieu n'était pas rapproché, que Sodome et Gomorre pourraient se retourner vers Dieu en criant à l'injustice. Donc, c'est comme si la situation aujourd'hui devient pire même que la situation de Sodome et Gomorre qui avait attiré à son époque le jugement de Dieu, le feu qui descendait du ciel comme jugement sur ces villes. Donc Dieu nous enseigne à vivre dans la justice de Dieu malgré que notre société s'approfondisse dans le péché et dans l'iniquité. À nous de recevoir cet enseignement, à nous de retourner à la source de cet enseignement qui est la parole de Dieu. Et rappelons-nous, la Bible est immuable. Ce qu'elle déclare comme péché dans la génération, dans l'histoire de l'humanité, était péché de toute éternité et sera péché de toute éternité. Il n'y a pas un péché de l'Ancien Testament qui arrive au Nouveau Testament, puis maintenant ce n'est plus un péché. Ce qui était déclaré comme iniquité dans l'Ancien Testament est encore iniquité dans le Nouveau Testament, en dépit de ce que pourrait en penser la société, en dépit de ce que pourrait en dire la société, et en dépit de ce que pourrait en critiquer la société. Alors nous devons revenir sur les bases même de l'Écriture, sur les bases même de la parole de Dieu, pour vivre dans la justice de Dieu et pour nous conformer à la justice de Dieu. La grâce de Dieu nous enseigne toutefois à vivre dans la justice divine, mais en même temps à vivre dans la justice des hommes. Et c'est parfois pas nécessairement évident de respecter la loi de Dieu et de respecter la loi des hommes. Mais Dieu nous accorde cette sagesse et ça faisait partie de la vie même de Jésus. Parfois, on a voulu le prendre au piège et les leaders religieux et sociaux de l'époque de Jésus se sont parfois approchés de lui pour lui tendre des pièges avec des questions. À un moment donné, on lui a demandé, mais est-ce qu'on doit payer l'impôt à l'Empire romain, Empire romain qui était l'empire dictatorial sur la Judée de l'époque de Jésus. Et on sait que Jésus va prendre une pièce d'argent et demander, ben, à quelle effigie est apposée sur cette pièce d'argent. Et bien sûr, c'était le visage de César qu'on tamponnait ou qu'on gravait dans une pièce d'argent de l'époque. Et Jésus va dire, ben, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et rendez à César ce qui est à César. Donc Jésus, dans sa façon de vivre, a toujours voulu respecter tant les lois de Dieu que les lois des hommes. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une espèce de mouvement dans la chrétienté qui semble nous dire qu'il est impossible d'être à la fois pleinement chrétien et assidu aux lois de Dieu et à la fois être un bon citoyen. À nous de savoir que Jésus, lui, dans son époque, a fait tout ce qu'il devait faire pour être un bon citoyen dans l'Empire romain qui était l'endroit, qui était les leaders de l'époque, mais ce faisant, il n'a pas contrevenu aux lois de Dieu. Et la grâce nous enseigne à faire ainsi. La grâce nous enseigne à vivre ainsi. Rappelons-nous aussi que il n'y a pas un endroit dans le Nouveau Testament où on voit que ce soit l'Église ou que ce soit Jésus qui se lève contre le gouvernement de l'époque. Jésus n'est pas venu établir un mouvement politico-religieux. Jésus n'est pas venu... J'ai besoin de boire une gorgée, je m'excuse. Sinon, j'allais tousser. Donc, Jésus n'est pas venu établir un mouvement politique. Jésus, ce qu'il est venu faire, c'était propager les lois du royaume, les enseignements du royaume et la grâce du royaume, et ça devrait être notre priorité à nous aussi. Oui, l'Église doit avoir son mot à dire sur ce qui se passe, et l'Église ne peut pas appuyer les tangentes pécheresses ou iniques vers laquelle la société se dirige. L'Église ne peut pas contredire la parole de Dieu et accepter le péché alors que Dieu le condamnait. Ça, c'est clair. On a l'occasion de verbaliser nos croyances, mais en aucun cas l'Église n'était appelée à devenir un mouvement politique ou un mouvement de contestation sociale. Alors, nous devons faire attention. Jésus n'a jamais soulevé le peuple juif contre l'Empire romain. Jésus ne l'a pas fait. Il s'est soumis à l'Empire romain. Et même Paul, lorsqu'il a été arrêté, il s'est soumis et il s'est conformé aux lois romaines qui étaient imposées sur son époque. Alors, ne faisons pas ce que l'Église primitive n'a pas fait. Ne faisons pas non plus, nous, de cette époque-ci ou de l'Église contemporaine, un mouvement social ou un mouvement politique. Nous ne sommes pas un organisme politique, nous ne sommes pas un organisme social, nous sommes l'Église du Christ, l'Église du Seigneur, et nous propageons non pas des idées politiques, mais nous propageons le message de l'Évangile, comme quoi tout homme est pécheur et tout homme a besoin de salut, et le seul salut s'opère en Jésus. Si nous nous concentrons sur ce message, déjà là, nous n'aurons pas de temps pour autre chose. Alors faisons-le adéquatement. Donc la grâce nous enseigne à vivre selon la justice de Dieu, mais aussi à savoir être pleinement chrétien, pleinement enfant de Dieu, dans une société où nous devons malgré tout respecter les lois de César. Dernier point pour aujourd'hui, la grâce nous enseigne à vivre selon la piété. la piété, ce qui est pieux, ce qui est divin, ce qui est propre aux vertus et aux préceptes divins. La grâce nous enseigne à vivre une communion avec Dieu, une communion profonde, une communion vivante, une communion vibrante et une communion active. La religion va susciter chez nous une foi qui est presque toujours morte, une foi qui est simplement le fait d'une connaissance intellectuelle, d'un savoir quelconque, alors que la communion avec Jésus va bien au-delà de cela. Et la grâce nous permet effectivement de vivre cette communion. Pourquoi je dis la grâce nous permet de vivre cette communion? Pour une raison toute simple. Toi et moi, nous étions pécheurs. Toi et moi, nous étions remplis d'iniquité. Et c'est la grâce qui permet à quelqu'un comme moi, rempli d'iniquité et rempli de péché, de pouvoir un jour venir à la connaissance de Christ et venir au pardon que Christ nous offre et venir à une nouvelle vie que Christ nous offre. Tout cela, je le dois à la grâce. Tout cela, je le dois au fait que Dieu a voulu me gracier. Aujourd'hui, si tu peux te targuer d'être un enfant de Dieu, si tu peux effectivement savoir que la vie éternelle t'est destinée en présence de Dieu, mais tout cela t'est dû à cause de la grâce. Donc la grâce nous enseigne à non seulement avoir cette vie nominale de chrétien, cette vie qui est tout simplement un titre de chrétien, mais de surcroît à ça, de vivre une communion vivante, vibrante, active avec notre Seigneur. Et je pense que tout ce qu'on a essayé de faire depuis le début du confinement et depuis ce début des bénédictions matinales, ça a été l'occasion pour nous de dire, regardons notre vie spirituelle, regardons notre communion avec Dieu, et il y a plus que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Il y a une dimension autre que celle qu'on a connue jusqu'à présent. On peut aller plus profondément dans l'intimité avec Dieu. On peut aller plus profondément dans la perception de sa présence. On peut aller plus profondément dans l'écoute de sa voix. On peut aller plus profondément dans l'expérimentation même de notre Seigneur. Et c'est ça que la grâce nous permet. Et c'est ce que la grâce nous enseigne aussi. Savoir comment approcher Dieu. Savoir comment vivre avec Dieu. Savoir comment pleinement profiter des grâces, des bénédictions et de la merveilleuse et somptueuse présence de Dieu. Alors la grâce est une chose merveilleuse. Vivons pour honorer la grâce qui nous a été faite. La grâce est une chose que nous ne pourrons jamais assez remercier Dieu de nous l'avoir accordée. La grâce est si merveilleuse que je vais passer l'éternité à ne toujours pas comprendre qu'est-ce que Dieu voyait dans ma vie, qu'est-ce que Dieu voyait dans mon existence pour pouvoir m'aimer tellement et donner son Fils pour mon salut. Alors, pour le restant de ma vie ici-bas sur terre, mais pour le restant de l'éternité, je veux honorer cette grâce qui m'a été faite et cette grâce qui m'a été accordée en n'ayant pas une foi et une spiritualité morlaffe, morte, vaine, banale, mais en allant de découverte en découverte avec mon Seigneur, en allant d'expérimentation en expérimentation avec mon Seigneur. Et lorsque je dis ces choses, ouais, vous voyez le sourire qui apparaît sur mon visage, mais ça devrait être la même chose dans votre âme et dans votre esprit. Vous devriez avoir ce même sourire qui dit, aujourd'hui, j'ai l'occasion de connaître mon Jésus encore davantage. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'expérimenter la présence de Jésus encore davantage. Et juste cette pensée que tu as le droit, que tu as l'occasion, que tu as la possibilité de vivre ces choses-là, ça devrait t'allumer et te réjouir profondément et faire en sorte que tu ne peux pas rester sur place, mais que tu dois encore t'approcher de ton Seigneur et de ton Sauveur. Alors voilà ce qu'on avait pour nous cette semaine concernant la grâce de Dieu. On va prier et après ça, on fait quelques salutations et je vous rappelle les rendez-vous d'aujourd'hui et de ce week-end. Alors Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce qui réjouit nos cœurs. Merci pour ta grâce qui nous enseigne, qui nous éduque et qui nous permet de vivre une vie qui t'est agréable, une vie sur laquelle tu peux apposer ton sceau d'approbation. Merci pour ma sœur et merci pour mon frère. Merci Seigneur de ce que cette semaine, tu nous as permis de te découvrir davantage. Cette semaine, tu nous as donné l'occasion, Seigneur, de revisiter la thématique de la grâce, non seulement pour l'apprécier davantage, mais aussi pour l'honorer telle qu'elle se doit, ô Dieu. Nous savons, Seigneur, que nous sommes privilégiés d'avoir été sortis de notre état de pécheur, d'homme et de femme inique, pour être appelés aujourd'hui enfants, fils, filles du roi des rois. Alors, Seigneur, je veux vivre une vie en conséquence. Je veux vivre une vie qui te plaît, qui t'honore, qui te glorifie. Et je prie qu'il en soit de même pour ma sœur et pour mon frère. Alors, continue à nous parler, continue à nous instruire, continue à nous enseigner. Nous en avons besoin. Et merci, Seigneur, encore une fois, de prendre ce temps avec nous. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, quelques salutations. Juste avant qu'on ne complète, je remonte un peu pour voir qui s'est joint à nous. Vous êtes nombreux encore ce matin, on est content. Je monte. Voilà. Donc, bonjour à Linda. Bonjour à Rosie. Bonjour à Michel. Bonjour à Chanel, à la sœur Susana, à la sœur Diana, au frère Juan Alberto, à la sœur Flori, au frère Luis, à la sœur Brigitte Mbala. Bonjour au frère Luis Medrano, à la sœur Cynthia. Makula, on t'a salué. Bonjour à mon épouse, Daphné, qui est juste à quelques mètres ici à ma droite. Qui d'autre? Bonjour à Emmanuel, Mélissa. Bonjour à Laetitia. Bonjour à Andrés. Voilà. Donc, nos rendez-vous pour cette semaine. Ce soir, 19h, notre temps de prière et d'intercession. Donc, on vous invite à être là de 19h à 19h30. Vous aurez l'occasion de nous transmettre vos requêtes. Et à 19h30, on prend une petite demi-heure pour présenter chacune des requêtes, chacun des besoins. Et le cas échéant aussi, chacune des actions de grâce que vous voulez élever devant le Seigneur. Donc, ça, c'est notre rendez-vous à 19h. On a après ça un rendez-vous, bien sûr, à dimanche. Et pour ce rendez-vous de dimanche, sachez que vous pouvez encore vous inscrire tout au long de cette matinée. La sœur Patricia était en rendez-vous ce matin, donc c'est simplement en après-midi qu'elle va faire les appels pour les dernières inscriptions. Donc on vous demande, si vous avez 30 ans et plus, ne tardez pas, n'attendez pas la semaine prochaine ou la semaine d'après ou au mois prochain. Venez nous voir dimanche, venez célébrer le Seigneur avec nous dimanche. On a encore des places de disponibles, on sait que c'est le maximum de 100 personnes qu'on peut accueillir, mais il y a encore des places, n'ayez crainte. Donc, pour ce faire, si vous avez 30 ans et plus, vous appelez soit au numéro de l'église, 514-273-8295, ou vous écrivez au courriel de l'église, secrétariat EAJC@gmail.com, et vous nous dites votre nom, votre numéro de téléphone, vous nous laissez peut-être votre courriel, pour qu'on puisse vous contacter et confirmer votre présence. Et dites-nous aussi les personnes qui vont vous accompagner si effectivement vous ne venez pas seul. Bien entendu, ces personnes doivent être elles aussi âgées de plus de 30 ans. Donc ça, c'est notre rendez-vous de dimanche. Si vous ne pouvez pas être là dimanche, sachez que notre assemblée sera bien entendu diffusée encore une fois sur Internet, sur les différentes plateformes. Il y a YouTube, il y a Zoom, il y a la page web de l'église, il y a la page Facebook de l'église. Vous avez l'embarras du choix pour prendre votre plateforme préférée et nous écouter. Et quand ça fonctionne pas sur l'autre, vous pouvez vous rabattre sur une deuxième. Et quand la deuxième ne fonctionne pas bien, vous pouvez aller sur une troisième. Donc, vous avez amplement de d'occasion pour nous regarder dimanche et être avec nous. L'assemblée débute bien entendu à 10 heures. Mais comme je vous dis, on serait tellement content de vous avoir avec nous dimanche. Donc, si vous voulez être là, prenez quelques instants dans les minutes qui viennent pour vous inscrire. Comme je vous dis, il reste encore de la place. C'est votre place. On vous attend. Donc, sur ce, on se retrouve ce soir à 19h pour notre temps de prière et d'intercession. Et par la suite, on se retrouve donc dimanche matin. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir été là encore aujourd'hui. Merci d'avoir été là tout au long de cette semaine. Ça a été une bénédiction de partager ces moments avec vous. Et sans l'ombre d'un doute, on aura encore un bon temps ce soir dans la prière et dimanche à l'Assemblée. Alors, que Dieu vous bénisse et puis à bientôt à tous. Bye bye.